France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Pour les gènes, il y a plusieurs façons de voyager. Le transfert vertical de gènes, c'est la généalogie de parents à enfants que l'on connaît bien. Et il y a le transfert génétique horizontal. Quels en sont les mécanismes ? Échanger du matériel génétique avec un autre organisme, sans lien de parenté, c'est possible. Dans le monde vivant, le transfert génétique horizontal, ce phénomène naturel, est fondamental chez les prokaryotes, les bactéries. Mais ces échanges de gènes peuvent aussi se produire de façon plus rare chez les animaux et les végétaux, entre caryotes. Et l'on peut voir un gène sauter d'une espèce à l'autre. On connaît par exemple l'alerode du tabac, cet insecte ravageur, dont le génome contient une cinquantaine de gènes issus de plantes. Et pour l'humain, une centaine de nos gènes proviendraient d'autres organismes vivants. Transfert horizontal de gènes, l'évolution par l'échange. Clément Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Évolution, génome, comportement, écologie de l'Université Paris-Saclay. Didier Mazel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien responsable de l'unité mixte Institut Pasteur, CNRS, plasticité du génome bactérien. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre fil podcast de l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous toutes nos ressources. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Alors quelles sont les espèces qui peuvent échanger de l'ADN sans reproduction sexuée? Quelle est leur fréquence et leur importance au sein des écosystèmes? Et comment ce phénomène façonne-t-il l'évolution? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec un point sur la sexualité des bactéries. C'est notre archive du jour.
Du jour où l'on s'aperçut que des souches de bactéries pouvaient échanger entre elles et combiner leurs propriétés chimiques ou physiologiques, on pouvait imaginer que naîtrait une génétique des bactéries. Cependant, rien ne laissait supposer d'abord que ces échanges et ces modifications héréditaires relevaient d'un phénomène analogue à la sexualité. Il y a déjà une quarantaine d'années que l'attention a été attirée sur la transmission possible de certains caractères d'une souche bactérienne à une autre, soit par le contact des deux souches, soit par la culture de l'une des souches dans un filtre de l'autre souche. L'expérience la plus spectaculaire eut lieu en 1928, lorsque Griffiths rendit virulente une souche de pneumocoque non virulente, en la mettant au contact de pneumocoques virulents mais tués par la chaleur. Par la suite, on obtint le même résultat, non plus avec des bactéries tuées, mais avec un simple extrait de ces bactéries. Les caractères héréditaires des microbes, comme ceux de tous les êtres vivants, sont gouvernés par la nature de leur acide désoxyribonucléique, en abrégé ADN. On peut extraire l'ADN d'une souche bactérienne et introduire cet ADN dans le milieu de culture d'une autre souche de la même espèce. Celle-ci acquiert alors quelquefois des caractères de la première. Elle sait de toute évidence incorporer l'ADN étranger. Le phénomène peut se produire naturellement lorsque deux souches sont en contact, comme si l'une des souches lâchait dans le milieu de culture une partie de son ADN qui s'en va pénétrer les bactéries de l'autre souche.
Et voilà, c'était un extrait de l'heure de culture française diffusée en 1960 sur la RDF. Didier Mazel, là ce qu'on entendait, c'est la fameuse expérience de Griffith.
Oui, exactement. Ça a été la première, disons, évidence des transferts génétiques horizontaux chez les bactéries. Et ça a été suivi peu de temps après, au début des années 60, par la découverte des éléments qui permettaient les échanges entre bactéries. Et c'est ça qui a conduit au développement de toute la génétique bactérienne, en fait, finalement. C'est à travers ça qu'on a pu établir toutes les bases d'une grande partie de la génétique qui s'applique aussi bien aux bactéries qu'aux eucaryotes.
Les eucaryotes, ça c'est plutôt votre dada, Clément Gilbert, mais votre réaction vous aussi à l'écoute de cette archive?
Ouais, c'est intéressant. Et chez les eucaryotes, on peut faire remonter l'idée de transfert horizontal peut-être à la découverte d'une enzyme qui s'appelle la reverse transcriptase, qui est capable de copier l'ARN en ADN et de faire que cet ADN se réintègre dans le génome de l'hôte eucaryote. Donc ça, c'est des découvertes qui ont été faites également au cours des années 60 par un chercheur américain qui s'appelle Howard Temin. Et puis, c'est suivi la formulation de la théorie endosymbiotique de l'origine des eucaryotes, qui a été formulée par Lynn Margulis, qui là aussi fait intervenir un grand nombre de transferts horizontaux, puisque selon cette théorie, l'ancêtre des eucaryotes proviendrait de la fusion d'un ancêtre d'une protobactérie et de l'ancêtre de l'eucaryote qui dérive d'une lignée d'archées. Et pendant cette fusion, il y a un grand nombre de gènes de la bactérie qui ont été transférés horizontalement dans le génome du proto-eucaryote. Donc les transferts horizontaux sont fondamentaux à l'origine des eucaryotes.
En effet, ce sont des phénomènes qui sont fondamentaux chez les bactéries, on le verra aussi actuellement dans le monde vivant, mais peut-être remettre certaines bases, de réviser un peu nos grandes notions, Clément Gilbert. Je disais, voilà, le voyage du matériel génétique, transmettre de l'information génétique, le plus connu, ce qu'on connaît très bien, c'est le transfert vertical, ça, on connaît.
Ça, on connaît bien, oui. Donc, la plupart des eucaryotes utilisent la reproduction sexuée, génère des cellules reproductrices, donc les gamètes, et puis lors de la fécondation, donc on a la rencontre du génome des deux parents qui forme un zygote, et le zygote se développe, forme un individu adulte qui est à son tour capable de se reproduire et de transmettre l'information génétique à sa descendance.
Et chez les bactéries, Didier Mazel, là c'est les transferts horizontaux sont essentiels.
Alors, ils sont non seulement essentiels, mais en plus, ils sont la clé du succès évolutif des bactéries. Elles ont choisi un modèle, enfin, elles n'ont pas choisi, elles ont été sélectionnées sur un modèle évolutif qui est complètement différent, puisque elles ont toutes des génomes assez condensés, petits, et elles partagent la charge génétique d'avoir différentes fonctions adaptatives auxquelles elles peuvent avoir accès chez les bactéries, comme Escherichia coli, par exemple. Chaque souche à seulement 20% de son génome, ou même moins que ça, qui est commun à toutes les espèces, toutes les souches d'Escherichia coli, et elles ont à peu près un génome accessible par transfert latéral au sein de l'espèce qui représente à peu près 20 fois leur génome total, quoi. Disons, on a d'un côté 1000 gènes et peut-être l'accès à 25 ou 35 000 gènes à travers les échanges génétiques horizontaux. Donc elles essayent du coup, elles évitent d'avoir une charge génétique trop importante parce que ça implique des contraintes métaboliques pour recopier ces génomes, pour la division, etc., en partageant le poids entre toute la population. Et on peut même étendre ça aux espèces plus éloignées qui sont capables aussi de transférer de l'ADN à peu près à n'importe quelle autre espèce.
Ça remet en question la représentation de l'évolution des espèces par un arbre qui reflète les relations phylogénétiques. Ça propose plutôt une représentation par un réseau qui illustre les interactions et les échanges récents entre les organismes.
Exactement. Donc on a quand même un cœur, on arrive à avoir des marqueurs qui restent, qui sont très robustes pour suivre l'évolution et la phylogénie des bactéries en particulier, tout comme tous les autres organismes vivants, mais à travers ça, on est capable de cartographier les événements d'arrivée de gènes, de perte de gènes aussi, parce qu'en fait, il y a une dynamique incessante et on peut reconstruire toute l'histoire des événements d'acquisition, de perte, tout au long de l'arbre. Donc même si ça donne effectivement un réseau, on a quand même les branches principales, mais effectivement, il y a beaucoup d'interconnexion entre toutes les branches.
Voilà, ces transferts ont un impact évolutif considérable sur l'évolution des procaryotes. Côté eucaryote, Clément Gilbert, on voit des échanges de matériel génétique qui peuvent se produire. C'est un peu plus rare, mais on a quand même quelques exemples.
Oui, alors c'est quand même beaucoup plus rare, mais effectivement, plus il y a de génomes qui sont séquencés, plus le nombre d'espèces pour lesquelles on a un génome disponible dans les banques de données et séquencé, plus on se rend compte qu'effectivement ces transferts, ils se sont quand même produits au cours de l'évolution des eucaryotes. Alors chez les eucaryotes, on a longtemps pensé en fait que ces transferts, ils étaient quasiment impossibles ou au mieux anecdotiques. Mais voilà, plus il y a de séquences, plus on analyse ces génomes, plus on les compare, plus on se rend compte que ils se sont quand même produits. Chez les eucaryotes, on a longtemps pensé qu'ils étaient que ces transferts étaient impossibles. D'une part parce que les eucaryotes donc ils ont un noyau, à l'intérieur de leurs cellules qui protège et qui stocke le matériel génétique, l'ADN, donc qui est une barrière au transfert horizontal, contrairement à ce qu'il y a chez les bactéries. Et puis là, en ce qui concerne les eucaryotes multicellulaires, donc là on peut parler des plantes, des animaux, des champignons aussi, mais surtout des plantes et des animaux. Donc là, il y a une division de la lignée germinale et de la lignée somatique qui se fait, donc qui aboutit en fait aussi à une protection des cellules germinales et qui fait que l'ADN étranger est beaucoup moins susceptible de pénétrer à l'intérieur du génome de la lignée germinale. Cela dit, il y a un certain nombre d'exemples qui ont été bien caractérisés aujourd'hui et on peut évoquer par exemple celui dont vous parliez tout à l'heure en introduction, le cas de l'alerote du tabac. Donc l'alerote du tabac, c'est un insecte hémiptère, donc qui appartient à l'ordre des hémiptères comme les punaises. L'adulte fait environ 1 mm de long. Et c'est un insecte phytophage, donc qui se nourrit de la sève des plantes. Et il y a quelques années de ça, deux ans je crois, des collègues chinois ont montré que cette alerote du tabac avait acquis donc un gène à partir de plantes via un transfert horizontal. Et ils ont pu montrer dans cette étude que ce gène avait codé pour une enzyme qui permettait aux plantes, normalement, de détoxifier un composé toxique que les plantes émettent, normalement, pour se protéger contre les insectes herbivores. Et donc l'acquisition de ce gène de plante par l'alerote du tabac lui permet maintenant à l'alerote du tabac de se protéger contre cette toxine émise par les plantes et permet à cet insecte de se nourrir d'une vaste diversité de plantes hôtes. Et ce qui en fait d'ailleurs aujourd'hui un des ravageurs de cultures les plus notoires.
Puisque comme ça, il s'est adapté à une large gamme d'espèces végétales.
Exactement.
Alors, par rapport aux mécanismes en jeu, on reviendra sur justement à des transferts horizontaux, chez les eucaryotes. Mais par rapport justement aux procaryotes, ça c'est quelque chose d'assez bien connu et on peut réviser nos cours fondamentaux de biologie ensemble, Didier Mazel. Chez les bactéries, il y a trois manières de faire des transferts horizontaux. La transformation, la conjugaison et la transduction. Comment ça se passe pour la transformation, l'acquisition d'ADN? Ça, c'est la première chose qui a été identifiée, justement.
Oui. La transformation, c'est un mécanisme qui permet aux bactéries d'acquérir à partir d'ADN nu dans le milieu, donc d'autres organismes qui seront morts autour, qui vont libérer de l'ADN. L'ADN est absorbé au contact de la paroi des bactéries. Et il y a un des deux brins d'ADN qui est transféré à l'intérieur des bactéries. Et là, la plupart des espèces bactériennes qui sont naturellement transformables ont toute une mécanique qui est prête à reconnaître l'arrivée de cet ADN sous cette forme spécifique, donc sous forme d'un seul brin d'ADN et non pas une double hélice, et qui va stimuler la recombinaison. Et donc cet ADN va pouvoir être recombiné et intégré à l'intérieur du génome. Et c'est vraiment un processus extrêmement répandu et qui est connu et commun chez une majorité des branches de l'arbre des bactéries.
C'est en effet ce phénomène qui a été donc découvert en 1928 par Frédéric Griffith. Puis autre façon de faire ce transfert horizontal, il y a la conjugaison, là aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe pendant ce phénomène?
Alors, pendant ce phénomène, alors là c'est un petit peu plus sophistiqué et à la fois un peu plus tout terrain. C'est la conjugaison, c'est un transfert d'une molécule d'ADN qui ressemble un peu à un mini chromosome bactérien qui va pouvoir se propager à travers un espèce d'organe qu'on appelle le pilus sexuel d'une bactérie à l'autre. Et donc et ces transferts là en fait sont affranchis dans la plupart des cas des étapes de recombinaison pour être intégrés dans le génome. Donc ils vont pouvoir les éléments qui vont être transférés, les éléments mobiles d'ADN qui vont être transférés, vont pouvoir se propager par eux-mêmes à l'intérieur des bactéries. Et de fait, quand on caractérise les génomes des bactéries, la grande majorité des bactéries portent des éléments de ce type, donc ces plasmides conjugatifs qui vont pouvoir donc disséminer à l'intérieur de toutes les populations.
Et ça, en effet, c'est donc Joshua Lederberg, c'est pour l'aspect histoire des sciences, Joshua Lederberg qui montre ce phénomène-là sur des souches de colis. Mmh. Et il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il se demande aussi s'il ne peut pas y avoir un autre vecteur capable de transporter du matériel génétique d'une cellule à une autre. Et là, il va aussi montrer un autre phénomène important dont on va entendre beaucoup parler pendant cette émission, c'est la transduction.
Alors la transduction, ça correspond à un événement qui est finalement assez rare, mais qui est très lié aux phases d'infection par des virus chez les bactéries. Donc de temps en temps, un virus, au lieu de récupérer l'ADN de son propre génome, qui va être répliqué dans la bactérie qui va mourir, il va récupérer, ce qu'on appelle encapsider, une partie du génome de la bactérie, et il va pouvoir le délivrer de façon extrêmement efficace à une autre bactérie qu'il va infecter de façon abortive, puisqu'il n'aura pas de gènes viraux dans sa capside. Et donc, c'est un phénomène qui est aussi extrêmement important. Alors, ça dépend un peu des espèces bactériennes. C'est un peu plus difficile à chiffrer que déterminer l'effet vraiment... pondérer l'effet de la transduction, mais c'est extrêmement efficace, au moins chez certaines espèces bactériennes.
En tout cas, on reviendra sur cette question des virus vecteurs. À quel point, en tout cas, les transferts génétiques horizontaux ont-ils complexifié les génomes? Comment permettent-ils d'expliquer l'apparition et la propagation de la résistance aux antibiotiques? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Clément Gilbert et Didier Mazel, nous parlons de transfert horizontal de gènes. On vient de voir ce phénomène naturel, un phénomène qui permet à du matériel génétique de se transmettre d'un organisme à un autre sans que le second soit un descendant du premier. On vient de voir que c'est très fréquent chez les bactéries et les prokaryotes. Ce sont ce phénomène-là, le transfert horizontal entre prokaryotes par conjugaison, qui a permis l'émergence et la propagation de l'antibiorésistance, Didier Mazel.
Oui, c'est en dehors des travaux de Lederberg, à peu près au même temps, au Japon, la production d'antibiotiques a énormément bondi au Japon après-guerre, apportée par les Américains. Et très rapidement, et on s'est aperçu qu'il y avait des espèces bactériennes qui passaient, il y avait une transition d'une absence totale de résistance à des bactéries qui étaient en un seul événement, quelques années, 4-5 ans, qui étaient capables de résister à 4 antibiotiques à la fois. Ce qui était absolument pas prévisible de ce qu'on savait de la génétique bactérienne à ce moment-là. Et donc, au début des années 60, ont été caractérisés les premiers vecteurs de ces résistances et on s'est aperçu que c'était des plasmides qui se propageaient. Donc on a appelé plasmides conjugatifs qui étaient capables de se propager entre espèces bactériennes.
Les plasmides, ce sont ces courts fragments d'ADN circulaire des bactéries.
C'est ça, c'est des mini-chromosomes bactériens, mais qui font à peu près quelques pourcents du génome, du génome de la bactérie. Et à partir de là, en fait, ces premiers événements sont devenus la règle générale et actuellement, la plupart des résistances sont propagées soit par des plasmides qui hébergent des éléments mobiles qui eux-mêmes portent des gènes de résistance et on a un envahissement général des populations bactériennes. Il y a des bactéries pour lesquelles on a tellement de résistance acquise, c'est ce qu'on appelle les résistances acquises, qui sont que ça va commencer à poser des problèmes de santé publique.
C'est ça, enfin, ça va commencer à poser des problèmes de santé publique. Selon l'OMS, quand même, l'antibiorésistance devrait devenir l'une des premières causes de mortalité au monde d'ici 2050.
Oui, ouais, ouais. C'est clair qu'on a au moins 2 ou 3 espèces bactériennes qui maintenant sont auto-résistantes et donc vont être une source de problèmes. Mais bon, il y a des stratégies pour essayer d'endiguer la problématique.
Mais avant de parler des stratégies, pour bien comprendre le problème, c'est que le problème des antibiotiques, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques. C'est ça, c'est qu'ils s'en prennent à l'ensemble des bactéries. Ça a un effet, cette destruction non ciblée.
Oui, oui, ça exerce une sélection sur des populations qui sont énormes. Quand on voit qu'on a le nombre de bactéries qu'on peut avoir dans le microbiote intestinal, on exerce, quand on fait un traitement antibiotique, on va tout liquider, donc on exerce une pression de sélection monstrueuse. C'est un peu la même chose, on a le même genre de problématique dans l'environnement quand on relâche ce genre de molécules. Et du coup, on augmente les chances de sélectionner des bactéries qui auront acquis un gène de résistance quelque part. Donc, et finalement, on sait qu'ils terminent tous dans les pathogènes pour lesquels on va utiliser les antibiotiques en question.
Alors comment lutter justement contre ce phénomène d'antibiorésistance, Didier Mazel?
Alors il y a plusieurs stratégies. Disons la plus simple serait de trouver de nouvelles molécules thérapeutiques. Mais il y a quand même un courant qui essaye d'utiliser, de détourner des éléments liés aux éléments mobiles, donc aux éléments qui se transfèrent et qui peuvent être... Donc il y a de nouvelles approches qui utilisent par exemple des virus spécifiques des bactéries, ce qu'on appelle la phagothérapie, et qui permet de cibler spécifiquement, très spécifiquement, des pathogènes, et de fait de n'exercer une sélection que sur une population très limitée. Et puis il y a d'autres approches qui passent par le génie génétique, que ce soit par l'utilisation de CRISPR-Cas, qui permettent de cibler spécifiquement des bactéries dont on voudrait stopper le développement, ou même éliminer des gènes de résistance au sein de populations bactériennes. C'est-à-dire qu'on peut cibler les plasmides qui vont porter les gènes de résistance et les éliminer. Donc avec l'espoir même de pouvoir revenir à un état plus naïf de ces souches.
De rendre de nouveau la bactérie sensible à l'antibiotique. Alors dans cette lutte contre l'antibiorésistance, la recherche a aussi son rôle à jouer. Mieux comprendre les mécanismes du transfert de gènes, par exemple, permettra certainement de lutter plus efficacement contre l'antibiorésistance. Et c'est le sujet de notre reportage du jour. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour, Natacha. Oui, effectivement, et c'est un sujet sur lequel travaille Marie-Cécile Ploix, professeure de microbiologie à la faculté de médecine de Limoges et praticien hospitalier. Elle m'a raconté que si l'antibiorésistance était largement exacerbée par nos modes de vie et par l'utilisation massive d'antibiotiques, il faut bien rappeler que c'est un mécanisme déjà présent dans la nature. Et pour comprendre pourquoi, il faut se mettre à la place d'une bactérie. Cette bactérie peut être attaquée par d'autres bactéries. Elle va donc produire des antibiotiques. C'est un moyen de défense. Mais elle fait en sorte que son antibiotique ne lui fasse pas mal à elle. Et donc, elle devient antibiorésistante à son propre antibiotique. Ensuite, cette antibiorésistance peut être transmise à d'autres bactéries, notamment des bactéries pathogènes, par transfert de gènes. C'est ainsi qu'on se retrouve à la fin par avoir des bactéries qui ne sont plus sensibles à nos médicaments. Et pour décrypter ce mécanisme, Marie-Cécile Ploix est partie de la description d'un schéma.
Alors ça, c'est un Escherichia coli, donc une bactérie qu'on a tous dans notre tube digestif. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a un rond. Et ce rond, c'est un plasmide. Et puis, il y a une espèce de fil, là, qui ressemble à une pelote de laine. Ça, c'est le chromosome de la bactérie. Donc ça, c'est le génome de la bactérie, intrinsèquement, comme votre génome à vous.
Et celui-là, il a une partie qui lui permet d'être antibiorésistant, c'est ça?
Alors, le rond, là, qui est un élément génétique mobile qu'on appelle un plasmide, ici, là, vous voyez, en rouge, il y a une partie qui est rouge. Ça, c'est le gène de résistance à une famille d'antibiotiques, c'est un gène qu'on appelle CTXM et qui confère à cette bactérie Escherichia coli une multirésistance à plusieurs antibiotiques.
D'accord.
Et donc en fait, on s'est aperçu, il y a des études qui ont montré que l'ancêtre de ce gène, qu'on appelle donc le progéniteur de ce gène, il venait d'une bactérie de l'environnement, du sol, qu'on appelle Cluivera ascorbata, qui n'est pas pathogène, qu'on retrouve pas en situation pathogène chez l'homme, mais au cours de l'évolution des bactéries, eh bien, à un moment donné, ce gène a été capté par différents éléments génétiques mobiles qui lui ont permis, à un moment donné, de se retrouver sur ce fameux plasmide qui s'est bien installé chez Escherichia coli et qui a permis après à cette Escherichia coli de disséminer un peu partout.
Et là, on voit que justement la partie rouge du plasmide, il y a un zoom qui est fait dessus où on peut voir les différents rectangles de couleurs. J'imagine que ça correspond à différents gènes. Le gène dont vous parliez, c'est lequel?
Alors, le gène dont je parlais, c'est celui-ci là, qui est rouge ici. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce que vous soulevez, c'est que parfois, ce gène de l'environnement, il est capté par un élément génétique mobile qui contient lui-même déjà d'autres gènes de résistance. Et ainsi, quand ça passe chez une bactérie pathogène pour l'homme, eh bien, vous pouvez avoir en bloc une transmission de plusieurs gènes de résistance à différentes familles d'antibiotiques.
Je ne sais pas s'il y a une manière d'expliquer un peu le mécanisme de comment une bactérie récupère un bout de gène antibiorésistant.
Alors, il y en a plusieurs. Vous avez, par exemple, si on prend le plasmide qu'on a vu, donc là, le plasmide, il va passer d'une bactérie à l'autre par un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de conjugaison. Donc, c'est comme si on avait, vous voyez, un pont, on voit sur cette photo en microscopie électronique, un pont entre deux bactéries. et le plasmide, il passe dans ce pont.
On peut essayer de la décrire, cette photo. Il y a deux taches noires, donc ça, j'imagine que c'est les deux bactéries.
Alors voilà,
et
vous
on a
avez
un trait noir qui relie les deux bactéries, comme s'il y avait une sorte de cordon ombilical entre
pont.
Les deux
c'est
bactéries.
C'est ça, il y a un pont. Donc en fait, vous voyez, une, elle a un peu comme des poils, là, c'est ce qu'on appelle des pili, qui vont permettre le processus de conjugaison. Et donc là, vous avez comme un grand fil, là, comme vous dites, un cordon ombilical qui rejoint les deux bactéries. Donc c'est un espèce de pont à travers lequel eh bien, les éléments génétiques mobiles comme les plasmides vont pouvoir passer. Vous voyez sur ce schéma, on voit deux bactéries avec le petit pont. Dans la première, il y a la copie du plasmide. Ça passe, il y a un seul des deux brins du plasmide qui passe chez la bactérie receveuse. Et après, eh bien, chaque bactérie, la donneuse et la receveuse, fabrique le brin complémentaire et on a donc une copie de plasmide qui est dans les deux bactéries. Donc la donneuse, elle ne perd pas son plasmide et la receveuse, elle l'a récupéré. Et ainsi, vous avez disséminé.
Et le fait que lors de ce processus-là, une bactérie récupère un bout de génome qui lui confère une antibiorésistance, ça, c'est totalement aléatoire. Elle va récupérer des bouts de génome de manière aléatoire et parfois, c'est un antibiorésistant qu'elle récupère, c'est ça ?
Exactement. Les transferts se font très majoritairement, effectivement, de façon aléatoire. Et ensuite, ce qui va faire qu'on va trouver la bactérie résistante, c'est ce qu'on appelle la sélection. Le principe de sélection, c'est que si vous prenez deux populations de bactéries, une sensible et une résistante, et que vous ne mettez pas d'antibiotiques, il n'y a pas de raison que l'équilibre entre la sensible et la résistante se modifie. Même souvent, c'est en faveur de la sensible parce que la résistance, elle entraîne souvent ce qu'on appelle un coup biologique qui fait qu'elle va courir moins vite que celle qui est sensible. En revanche, si vous mettez de l'antibiotique auquel la population résistante résiste, la sensible, comme elle est sensible, elle va disparaître et vous allez faire émerger la résistante qui va prendre la place. Donc en fait,
mais
vous
on
sélectionnez
un facteur de pression qui favorise
la sélection,
qui favorise la bactérie qui
résistante.
A une antibiorésistance.
On appelle ça vraiment une pression effectivement antibiotique.
Aujourd'hui, pour lutter contre cette problématique là de l'antibiorésistance globalement, c'est quoi qui nous reste encore à comprendre sur les transferts de gènes et quel est un petit peu le futur de ces recherches sur les transferts de gènes et leur importance dans l'antibiorésistance ?
Alors ça, c'est une vraie question sur que nous reste-t-il à découvrir. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose actuellement. Vous savez qu'en France, il y a un grand programme depuis plusieurs années coordonné par l'INSERM qui s'appelle le plan prioritaire de recherche antibiorésistance hein, grâce à une action avec des fonds provenant du ministère de la Recherche. Et justement, dans les actions de recherche futures à mener, il y a toutes les questions sur l'émergence et donc justement, quels sont les mécanismes qui seraient à l'origine de transferts de gènes, par exemple, de l'environnement vers des bactéries cliniques. Ça, c'est une des questions aussi.
D'accord. Pour comprendre, du coup, vraiment la source de cette antibiorésistance.
Oui, pour comprendre, parce que peut-être que demain, on aura des nouvelles résistances qu'on ne connaît pas encore.
Et est-ce que d'en connaître la source, ça permet de mieux prévoir, ou est-ce qu'il y aurait même des moyens d'action pour empêcher l'acquisition de cette antibiorésistance ?
Tout à l'heure, je vous parlais de la conjugaison. Eh bien, il y a des équipes qui travaillent sur les mécanismes pour bloquer la conjugaison, par exemple, pour trouver des molécules qui permettraient de bloquer ce mécanisme de conjugaison.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Didier Mazel, une réaction à l'écoute justement de ces travaux.
Tout ce qu'a... C'était Marie-Cécile a clairement... expliquer et donner l'étendue de la problématique. Bon, elle a pas tout dit, mais non, c'est clair que oui, c'est une des clés, c'est d'essayer de bloquer les transferts latéraux, parce que la ressource dans l'environnement, elle est énorme. Nous, dans mon laboratoire, on a travaillé sur un des systèmes qui capture les gènes de résistance, qui est la principale problématique chez les bactéries à gram négative, donc les E. coli, les pseudomonas, enfin toutes les salmonelles, tout ce groupe de bactéries. Et donc, on a découvert en fait qu'il y avait une machine génétique qui servait à capturer les gènes, qui est présente dans énormément de bactéries de l'environnement, en particulier dans tous les vibrios marins, qu'ils soient pathogènes ou pas. Et quand on a caractérisé le contenu des gènes qui étaient dans ces îlots mobiles, on a découvert par exemple dans des éponges des gènes de résistance à des antibiotiques de la même famille de la carbénicilline, et alors qu'on n'a jamais traité les éponges avec ce genre d'antibiotiques. On a trouvé des gènes de résistance à un autre antibiotique, le trimétoprine, dans des vibrios de l'environnement au fond de fjord. Donc il y a une ressource potentielle dans l'environnement innombrable de gènes de résistance. Donc je pense que cette chance-là...
On ne sait pas expliquer.
La plupart des gènes de résistance, ils n'ont pas été sélectionnés à l'origine parce qu'ils conféraient une résistance. Oui, ou si, peut-être, parce que la plupart aussi des antibiotiques naturels sont produits soit par d'autres bactéries, soit par des champignons. Et donc, ces organismes-là ont besoin d'avoir des mécanismes pour se protéger. Donc, il y a des cas caractéristiques, par exemple, sur un antibiotique qui est à destination de la vancomycine, les gènes de résistance sont quasiment identiques à ceux qu'on trouve chez les streptomycètes qui produisent la vancomycine. Donc, il y a une source pour capturer ces gènes. Donc, en fait, le problème, c'est que je pense que on peut prédire assez facilement que, quelles que soient les nouvelles molécules qu'on va développer, on trouvera toujours des gènes de résistance. Les capacités de génétique des bactéries sont incomparables. Une des seules chances qu'on pourrait avoir de bloquer, en dehors d'une course sans fin vers de nouvelles molécules, ce serait de pouvoir bloquer les transferts latéraux. Alors, Marie-Cécile a mentionné l'idée de bloquer la conjugaison. Alors, malheureusement, toutes les études qui ont essayé de faire ça, pour l'instant, ont échappé au succès. Ou le succès leur a échappé, mais voilà.
En tout cas, vous avez opté, dans cette lutte contre l'antibiorésistance, vous avez opté pour une autre stratégie, Didier Mazel, avec des travaux publiés dans Nature Biotechnology en 2019. Vous proposiez, avec votre équipe, vous vous êtes demandé s'il ne serait pas possible de détourner ce transfert horizontal de bactéries dangereuses en leur faisant ingérer un dispositif d'autodestruction. Vous pouvez nous raconter comment vous avez justement détourner cette machinerie bactérienne?
Alors, c'est une belle histoire parce qu'à l'origine, le projet en question était un projet de technologie émergente européen et on essayait de démontrer si on pouvait utiliser les bactéries pour faire de la computation et en utilisant le transfert latéral de plasmides pour figurer des portes logiques. Et une des applications qu'on a proposées, c'était de détourner donc les plasmides de telle façon à ce qu'ils puissent se propager dans des populations et utiliser leur puissance de dispersion en leur faisant porter un petit module génétique dans lequel on avait mis une toxine bactérienne qui est toujours associée justement aux éléments mobiles et qui permet de les stabiliser, de faire qu'une bactérie qui récupère un plasmide a toutes les difficultés du monde pour le perdre. Elle a une espèce d'addiction qui est due à ces gènes de toxines qu'elles ne peuvent pas perdre. Et du coup, on a décidé d'utiliser ces toxines pour lesquelles on ne trouve quasiment jamais de résistance naturelle, de les mettre sous le contrôle d'un promoteur, donc un élément génétique qui va permettre l'expression du gène qui est associé à ce promoteur, et d'utiliser des promoteurs qui sont spécifiques des bactéries qu'on va vouloir cibler, ou des gènes de résistance qu'on va vouloir cibler. Et on a testé si on pouvait faire transférer ces plasmides dans des populations complexes, et vérifier qu'ils n'allaient devenir efficaces que quand ils atterriraient, enfin ils n'atterrissent pas, mais quand ils finiraient par arriver dans la bactérie pathogène qu'on ciblait, ou la bactérie résistante. Et donc on a testé cette stratégie avec un certain succès dans des modèles animaux simples, et on a montré que ça pouvait être une stratégie alternative à l'utilisation de molécules.
Si vous avez montré en effet que ce transfert de plasmide est latéral pour la bactérie pathogène, vous l'avez testé, les animaux en question, vous l'avez testé in vitro et ensuite in vivo chez des poissons. C'est une sorte de preuve de concept.
C'était une preuve de concept. Alors depuis, on a beaucoup développé, donc là on cherchait à démontrer qu'on pouvait tuer spécifiquement des vibrios cholérés qui étaient résistants aux antibiotiques, multirésistants, et même pas les vibrios sensibles. Et depuis, on a étendu notre arsenal en ayant pour cible des bactéries beaucoup plus problématiques pour la santé humaine, comme les salmonelles qui donnent les salmonelloses, Shigella, Klebsiella pneumoniae. Et donc, on est en train d'essayer maintenant. On est en train de faire des essais dans les souris pour voir si on peut arriver à éliminer ces pathogènes.
Alors maintenant, que connaît-on de l'existence de transferts de gènes horizontaux de procaryote à eucaryote entre une algue et une bactérie ou encore entre un opossum et un singe écureuil ? Restez avec nous.
No gene but fate, and when for one reason or another we attempted to change these hard times, our own genetic identity became our only true ally to finally survive.
De Télépop Musique en direct sur France Culture, car nous parlons de ce phénomène génétique naturel, nous parlons de transfert horizontal de gènes. On en parle avec nos deux invités du jour, Clément Gilbert, directeur de recherche CNRS au laboratoire EGCE de l'Université Paris-Saclay, et Didier Mazel, généticien responsable de l'unité mixte Institut Pasteur CNRS Plasticité du génome bactérien. On vient de parler de ce transfert latéral sans reproduction qui permet de complexifier les génomes du monde vivant. Parlons à présent de ces transferts lorsqu'ils concernent les procaryotes et les eucaryotes, Clément Gilbert. De manière plus générale, ces transferts, ce sont surtout les insectes qui portent du matériel génétique qui proviennent de bactéries.
Alors oui, c'est ça. Oui. Donc, chez les eucaryotes, on a quand même beaucoup moins de recul sur les transferts horizontaux que chez les procaryotes. Ces transferts ont été étudiés depuis beaucoup moins longtemps chez les eucaryotes que chez les procaryotes. Mais il y a quand même quelques mécanismes qui commencent à être un peu connus, qui expliquent les transferts horizontaux chez les eucaryotes. Je pense notamment au mécanisme qui est utilisé par une bactérie qui s'appelle Agrobacterium. C'est une bactérie qui vit dans le sol. Et lorsque cette bactérie est en contact avec des racines de plantes ou des tissus de plantes blessés, elle va déclencher la formation d'un petit tuyau moléculaire dont on parlait tout à l'heure, le fameux pilus, ce pilus va lui permettre de traverser la membrane cellulaire des plantes et d'injecter justement ce fameux plasmide, donc un plasmide qui va lui-même être intégré dans le génome des cellules de plantes. Alors ça, c'est un mécanisme bien caractérisé. Ça va permettre à la bactérie d'induire la formation de ce qu'on appelle une gale chez la plante. C'est une sorte de cancer, en fait, qui est induit chez la plante. Et au sein de cette gale, la bactérie va pouvoir proliférer en tirant bénéfice du métabolisme de la plante qu'elle détourne à son profit. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui peut expliquer des transferts de gènes entre bactéries et plantes. Cela dit, de manière générale, ce mécanisme, il est utilisé par la bactérie pour transformer les cellules somatiques des plantes. Il ne touche pas les cellules de la lignée germinale. Donc on s'attend pas à ce que les gènes du fameux plasmide soient transmis de génération en génération chez les plantes touchées. Mais il se trouve que lorsqu'on regarde dans les génomes de plantes qui ont été séquencés jusqu'à présent, on trouve quelques cas de gènes d'agrobactérium qui sont intégrés de manière stable chez certaines espèces de plantes. Donc c'est notamment le cas chez une plante qui s'appelle la linéaire commune, qui est une plante qu'on trouve un peu partout en France et dans d'autres pays d'Europe, sur les talus, les terrains vagues. Donc elle a plusieurs gènes d'agrobactérium dans son génome. C'est le cas aussi de la patate douce, qui a plusieurs gènes d'agrobactérium dans son génome. Il y a un certain nombre d'équipes de recherche qui ont montré que ces gènes étaient exprimés dans les cellules de patate douce. Mais à l'heure actuelle, il ne me semble pas qu'on sache ce que ces gènes font chez la patate douce.
On connaît de nombreux transferts horizontaux entre bactéries et insectes. Ça peut s'expliquer en grande partie par la symbiose entre les bactéries et les insectes, Clément Gilbert.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une autre hypothèse. Les relations symbiotiques, en général, pourraient faciliter ces transferts. On sait qu'il y a un grand nombre de bactéries qui vivent en symbiose, notamment avec les insectes. Il y a même des bactéries qui vivent en symbiose à l'intérieur des cellules d'insectes. C'est le cas notamment d'une bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui est présente, on pense, chez au moins 60% des espèces d'insectes. Et cette bactérie, elle est transmise exclusivement par les ovocytes des femelles chez les insectes. Donc elle se transmet par la voie maternelle de manière verticale. Et donc elle a tout intérêt à être en contact de la lignée germinale, ce qui peut favoriser donc les transferts de gènes du génome de Wolbachia vers le génome des insectes. Et d'ailleurs, quand on étudie le génome de ces insectes, on se rend compte que la plupart des espèces d'insectes qui portent des Wolbachia ont des gènes aussi qui ont été acquis par transfert horizontal de Wolbachia dans leur génome. Pour la plupart de ces gènes, on ne connaît pas leur fonction à l'heure actuelle.
Didier Mazel, on parle aussi des transferts des eucaryotes vers les bactéries.
Oui, oui, alors c'est...
Par rapport justement à cette symbiose, on voit que ça va dans les deux sens.
Il y a des exemples, il y a un exemple qui est très frappant, c'est le cas de la bactérie qui donne la maladie du légionnaire, où il y a le recrutement dans le génome de la bactérie d'à peu près 3% de son génome est constitué de gènes qui ont une origine eucaryote. Donc c'est des bactéries qui, à l'origine, servent de son parasite, les amibes, et elles ont récupéré soit des gènes du génome de l'amibe, soit même des virus de l'amibe. Donc il y a plusieurs éléments le même genre de choses qui a été décrit.
Mais nous, qu'est-ce qui nous a donné envie de faire cette émission, cette étude parue dans Current Biology le 3 février 2025, où une drosophile a réussi à voler, entre guillemets, un gène de bactéries pour survivre à la prédation des guêpes parasites. Le gène, c'est devenu alors une partie du système immunitaire de la mouche, Clément Gilbert.
Oui, c'est ça. Donc, dans cette étude... les auteurs montrent d'abord que c'est une toxine de phage, donc un virus qui infecte les bactéries, qui a été transféré dans le génome d'une mouche drosophile, de l'ancêtre d'un groupe de mouches drosophiles qui utilisent maintenant ce gène pour exprimer une toxine qui les protège de certaines guêpes parasitoïdes. Et dans cette étude, ce qu'ils font, c'est assez intéressant parce que ils utilisent ce gène, en fait, qu'ils vont transférer artificiellement dans des mouches qu'ils ne l'ont pas. Et ils vont faire deux types d'expériences. Donc, dans la première expérience, ils vont transférer ce gène et le mettre sous le contrôle d'un promoteur, donc une petite séquence régulatrice qui permet l'initiation de l'expression du gène. Donc, c'est un promoteur qui est généraliste. Donc, ce gène va être exprimé chez les mouches dans tous les tissus de la mouche au cours du développement. Et là, les chercheurs se sont rendus compte que, sous le contrôle d'un promoteur généraliste, ce gène était en fait toxique pour la mouche. Donc, il était complètement délétère et les mouches qui portaient ce gène transféré horizontalement ne pouvaient pas se développer correctement. Et puis après, dans une seconde expérience, ils mettent ce gène transféré horizontalement chez les mouches sous le contrôle d'un promoteur qui va être spécifique des cellules immunitaires. Donc là, le gène va pouvoir s'exprimer uniquement dans les hémocytes, qui sont les cellules sanguines et responsables de l'immunité chez les insectes. Et là, par contre, ils se rendent compte que le gène est bénéfique, donc n'empêche pas la mouche de se développer et en plus la protège contre les guêpes parasitoïdes. Et donc dans cette étude, ils montrent que pour qu'un gène soit transféré horizontalement de bactéries à insectes avec succès, il faut non seulement qu'il passe toutes les barrières qui sont qu'on le pensait, qui permettent aux eucaryotes de se protéger contre l'invasion d'ADN étranger. Mais en plus, il faut qu'ils soient intégrés dans les bonnes conditions d'expression. Il faut qu'ils soient sous le contrôle d'un bon promoteur pour être exprimés au bon endroit, au bon moment, au cours de l'évolution, au cours du développement des insectes.
Mais ça, à quel point ce phénomène est-il courant dans le monde vivant chez les eucaryotes, Clément Gibert ? Vous avez travaillé sur cette question avec une étude parue dans PNAS en 2017.
Oui, alors il y a plusieurs types de séquences ADN qui peuvent être transférées horizontalement chez les eucaryotes. On a parlé des gènes, les gènes classiques qu'on connaît bien. Mais il y a aussi d'autres éléments génétiques qui peuvent être transférés horizontalement. Ce qu'on appelle les éléments transposables. Les éléments transposables sont des gènes aussi. On les appelle parfois les gènes sauteurs. Donc ce sont des gènes qui sont capables de sauter d'un endroit à l'autre dans les génomes, tout en se multipliant, en générant de nombreuses copies d'eux-mêmes au cours de l'évolution. Les éléments transposables, ils sont présents chez tous les organismes. Ils composent fréquemment la majeure fraction des génomes, hein, plus de 50% du génome humain est constitué d'éléments transposables. Chez le maïs, c'est 80% du génome qui est constitué d'éléments transposables. Et ces éléments transposables, en plus d'être capables de sauter d'un endroit à l'autre dans le génome, on a montré qu'ils étaient capables aussi de transférer horizontalement entre espèces, et notamment entre espèces d'insectes. Donc dans cette étude, en 2017, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à quantifier en fait le nombre de transferts horizontaux de ces éléments transposables entre un groupe de 195 espèces d'insectes. Et donc en utilisant des méthodes d'analyse bioinformatique qui reposent sur l'analyse des séquences des génomes entiers de ces insectes, on a pu inférer que ces insectes avaient subi un grand nombre de transferts horizontaux, plus de 2000 événements de transferts horizontaux entre ces espèces d'insectes. Et ce qu'on a montré aussi rapidement, c'est que...
Parce que vous avez aussi travaillé sur les génomes de vertébrés.
Oui. Par la suite, on a fait une autre étude qui suivait celle-ci. Mais ce qu'on a montré chez les insectes aussi, c'est que les transferts étaient plus fréquemment transférés horizontalement entre espèces d'insectes proches génétiquement qu'entre espèces distantes. Et on a aussi montré que ces transferts se produisaient plus souvent entre espèces partageant les mêmes aires géographiques, donc proches géographiquement qu'entre espèces distantes géographiquement.
Par rapport aux habitats, justement par rapport à l'analyse des génomes de vertébrés, vous êtes aussi rendu compte de ça, hein, que la plupart des transferts horizontaux concernent les poissons.
Oui, on a mené une deuxième étude suite à cette première que je viens de décrire, qui cette fois portait sur 307 génomes de vertébrés, donc des poissons, des mammifères, des serpents, des tortues, plein d'espèces de reptiles. Et donc là, on a inféré presque un millier de transferts horizontaux entre ces différents génomes, et on s'est rendu compte que plus de 90% des transferts impliquaient les poissons. Donc on ne sait toujours pas pourquoi les transferts sont plus fréquents chez les poissons que chez les autres espèces de vertébrés. Il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on étudie à l'heure actuelle. On pense par exemple au fait que les poissons utilisent la fertilisation externe, donc ils relarguent leurs gamètes dans l'environnement, ce qui pourrait les rendre plus susceptibles d'être envahis par de l'ADN étranger.
La niche aquatique aussi peut-être,
aussi plus exposée à de l'ADN étranger dans tous les cas, de l'environnement, moins protégé dans le corps des poissons. Voilà. On a cherché à explorer un petit peu cette piste selon laquelle la niche aquatique pourrait favoriser les transferts chez les vertébrés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a répété ce type d'analyse en l'étalant à l'ensemble des animaux. Et donc on a sélectionné un ensemble d'environ 250 génomes, donc 250 espèces, qui couvrent un ensemble de 19 transitions entre habitat aquatique et terrestre au cours de l'évolution des animaux. Et on a cherché à quantifier les transferts horizontaux le long de ces transitions. Et on a posé la question, pour chaque transition, est-ce qu'il y a plus de transferts chez les animaux aquatiques que chez les animaux terrestres ? En l'occurrence, on n'a pas trouvé plus de transferts chez les animaux aquatiques que chez les animaux terrestres. Donc il semblerait que la niche aquatique, dans son ensemble, ne soit pas plus favorable que les niches terrestres aux transferts horizontaux. Il y a d'autres facteurs qui doivent expliquer le nombre plus élevé de transferts chez les poissons.
En tout cas, autre facteur digne d'intérêt, le vecteur capable de transporter du matériel génétique, les virus peuvent également figurer sur la liste des suspects, Clément Gibert, hein, parce qu'ils sont de parfaits suspects pour transporter ce matériel génétique.
Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi une hypothèse sur laquelle on travaille pas mal au laboratoire. Donc il y a plusieurs vecteurs qui ont été proposés comme étant responsables des transferts horizontaux. Et on étudie en particulier les virus, parce que les virus sont infectieux, ils ont tout le matériel nécessaire pour pénétrer à l'intérieur des cellules de leur hôte, injecter leur génome dans les cellules de leur hôte. Les virus, en général, infectent plusieurs espèces, donc on peut imaginer qu'ils capturent de l'ADN d'une espèce, puis ils vont infecter une deuxième espèce, et ils vont relarguer l'ADN de la première espèce dans les cellules de la seconde. Et pour essayer d'explorer un peu plus cette piste, ce qu'on a fait, c'est... On a utilisé plusieurs virus pour générer des infections au laboratoire de plusieurs espèces, notamment des espèces d'insectes. Donc notamment, on a utilisé un baculovirus pour infecter des chenilles de papillons. Et au bout de quelques jours, à la mort des chenilles, on a purifié les particules virales et on a cherché à mesurer, d'abord à savoir si au cours de la réplication virale, des éléments mobiles ou des gènes du papillon avaient pu sauter dans le génome viral, et puis si ces virus pouvaient par la suite transférer ces éléments à d'autres espèces. Et donc en séquençant le génome de virus extrait des chenilles, on a pu découvrir un grand nombre de ce type de transferts, donc avec plusieurs milliers d'éléments transposables des chenilles qui sont capables de sauter du génome de la chenille au génome du virus pendant la réplication du virus.
Ça, c'est quand même un côté évolution, ça signifie quand même quelque chose, que les virus ne sont pas seulement des acteurs néfastes du vivant, mais qu'ils peuvent permettre la diversité génétique, Clément Gilbert.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a un peu un biais dans notre connaissance des virus, parce que pendant longtemps, on a surtout étudié les virus qui causaient un phénotype, c'est-à-dire qui avaient une influence sur leurs hôtes visibles, et en général, une maladie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on arrive à montrer que la plupart des virus n'ont pas nécessairement de conséquences négatives sur leurs hôtes, qu'il y a beaucoup de virus qui sont asymptomatiques. Et qui pourraient à l'inverse, apporter des bénéfices à leurs hôtes. Et entre autres, est-ce que les virus pourraient être des vecteurs de transfert horizontaux qui permettraient d'être une source de diversité génétique chez les insectes notamment, mais aussi chez d'autres espèces d'eucaryotes? C'est une question qu'on se pose à l'heure actuelle.
Et on voit que dans le génome humain, environ 8% de notre génome dérive de l'intégration de virus endogènes.
Oui. Alors 8%, ouais, c'est ça. C'est 8%. En fait, ils dérivent de l'intégration de génomes de rétrovirus qui se sont produits tout au long de l'évolution des vertébrés, donc depuis environ 500 millions d'années. Donc les rétrovirus, hein, c'est un groupe de virus auquel appartient le virus du SIDA, par exemple. Donc ce sont des virus. Ce sont les seuls virus qui ont la capacité d'intégrer leur génome dans le génome des cellules de leur hôte. Et en fait, cette intégration, elle est nécessaire et indispensable à la réplication du virus. Et normalement, cette intégration, elle se produit uniquement dans les cellules somatiques, dans certaines cellules somatiques de l'hôte. Par exemple, dans le cas du VIH, ce sont les cellules du système immunitaire qui sont ciblées. Donc, normalement, ces virus ne ciblent pas la lignée germinale. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 8% de notre génome dérive d'intégration virale. Donc c'est un phénomène qui s'est produit de manière récurrente et relativement fréquente au cours de l'évolution des vertébrés. Ces rétrovirus ont infiltré la lignée germinale des vertébrés de manière récurrente. Et donc aujourd'hui, 8% de notre génome en dérive. Et qu'est-ce qu'ils font ces virus dans notre génome? C'est la question qu'on peut se poser. Donc il y a de nombreuses études qui portent sur ces virus. Ils ont apporté de la nouveauté génétique et au cours de l'évolution, les gènes viraux ont été recyclés et sont maintenant impliqués dans un grand nombre de fonctions cellulaires en fait.
Ouais. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais pour conclure, Didier Mazel, on parle de génome humain et de génome viral. On connaît des transferts horizontaux entre animal et homme? A priori, non, hein, on pense pas qu'il y en ait.
Animal et homme? Alors là, ça c'est une... Moi, je n'en...
Non, à ma connaissance, on ne connaît pas.
Ouais. Je crois pas qu'il y en ait eu de décrit.
Les transferts horizontaux les plus fréquents qui ont touché la lignée humaine, ce sont vraiment l'intégration de génomes viraux. Ouais.
Écoutez, merci infiniment à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci Clément Gilbert, merci Didier Mazel. Tout de suite, un tout autre sujet, on quitte la microbiologie pour l'intelligence artificielle. Comment sécuriser les IA génératives et en particulier les LLM, les grands modèles de langage? Réponse dans la chronique avec Science.
comment sécuriser les IA génératives. Puisque le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle se termine aujourd'hui, je vous propose que nous nous penchions sur les questions de sécurité qui entourent ces intelligences artificielles. Vous en entendez parler à tout bout de champ, de l'américain ChatGPT au chinois DeepSeek, en passant par Bard ou encore Midjourney. Ces IA sont partout, mais de quoi parle-t-on au juste? Une intelligence artificielle générative, c'est un logiciel capable de produire du contenu numérique. Ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo ou du son, mais aujourd'hui, on est capable de faire du contenu multimodal, donc qui combine tous ces formats. Parmi tous ces types de logiciels génératifs, nous allons nous concentrer ici sur les LLM, l'acronyme de Large Language Model. En français approximatif, ça donne « grand modèle de langage ». Le terme est apparu il y a moins d'une dizaine d'années dans un papier publié par les équipes de Google, mais l'idée a été laissée de côté et c'est l'entreprise OpenAI qui saura ensuite exploiter cette architecture informatique pour proposer son désormais célèbre ChatGPT, lancé en 2022. Thierry Berthier est enseignant-chercheur en mathématiques à l'université de Limoges et il est expert en intelligence artificielle.
Les LLM textuels, ce sont des next word predictors, c'est-à-dire qu'on prédit le mot suivant qui a le plus de probabilité d'arriver. Par exemple, si je vous dis « il y a le feu dans la chambre », vite, appelons les trois petits points, et là vous allez me dire « pompier », parce que le mot « pompier », c'est le mot qui a la plus grande probabilité d'arriver à la fin de la phrase. Donc là, je résume beaucoup, mais c'est le fonctionnement d'un LLM. Alors, pour construire un LLM aujourd'hui, partant de zéro, ça va être très coûteux. Il faut d'abord passer par une phase d'entraînement de l'architecture, parce qu'au début, il ne sait rien. Donc, vous allez l'entraîner sur un énorme volume de données. ChatGPT 3.5, puis le 4 ont été entraînés sur presque toutes les données accessibles du web. Il se nourrit de toutes ces données, de toutes les données qui sont accessibles. Vous le mettez en phase de production et là, vous allez lui envoyer un prompt, une question, une phrase, un texte. Et puis, à partir de ça, il va essayer de répondre à votre question. Donc, le modèle est en production une fois qu'il a été entraîné. Et donc, vous lui posez des questions, grosso modo. Et lui, il vous fait la réponse en fonction de sa phase d'entraînement.
Comme tous les logiciels, les LLM sont vulnérables aux attaques. Les plus communes sont les jailbreaks, un anglicisme qui désigne le fait de contourner les sécurités internes de l'outil. On l'a vu, ces intelligences artificielles sont entraînées sur des bases de données gigantesques qui contiennent, bien sûr, des contenus que l'on n'aimerait pas voir diffusés. Alors, pour éviter ça, les constructeurs inhibent et censurent leurs IA. On ne peut pas demander à ChatGPT d'être raciste ou alors la recette de fabrication d'une bombe artisanale, par exemple. Mais avec la bonne requête, il est possible de berner le logiciel. Mettez-vous un instant dans la peau d'un utilisateur mal intentionné qui souhaiterait apprendre à faire une bombe. Eh bien, en posant la question frontalement, vous auriez peu de chances d'obtenir une réponse. Alors, vous passez par des techniques d'interrogation indirecte. Vous demandez à votre LLM de raconter l'histoire d'une grand-mère qui raconte elle-même à son petit-fils l'histoire de quelqu'un qui voudrait fabriquer une bombe. Le logiciel est perdu, il vous raconte tout. Alors pas la peine de tenter ça chez vous, la technique est connue des constructeurs, néanmoins elle illustre bien les possibles failles de ce système. D'autres dérives existent comme la possibilité d'orienter les réponses du LLM ou alors d'en prendre le contrôle par exemple. Mais que faire pour empêcher ces usages détournés? De nombreux chercheurs se penchent sur la question et c'est l'objet d'un article récent publié dans le Journal of Artificial Intelligence Research. Dans cette publication qu'on appelle une revue de la littérature, les scientifiques ont analysé plus de 120 articles pour identifier ces failles. Une recherche qui se fait grâce à des équipes qui testent les IA, ce sont des red teams.
Le red teaming, c'est quelque chose qui vient du domaine militaire, qui est très très utilisé en cybersécurité. C'est des équipes qui vont être chargées de chercher les vulnérabilités d'un LLM en faisant des tas de tests et en essayant d'exploiter des micro-vulnérabilités en changeant les prompts par exemple, en lui posant plusieurs fois la même question, mais exprimée de façon différente. Et là, on va regarder quand est-ce qu'il y a des déviations importantes sur les réponses. Et peut-être qu'il y a une façon de poser la question qui va faire une réponse complètement différente. Et ça, ça va être un début de piste de vulnérabilité. Alors, la partie red teaming, elle peut être mise en place aussi, elle est souvent mise en place par les constructeurs de LLM eux-mêmes. C'est-à-dire, vous construisez un LLM, puis après, vous allez tester, vous allez tordre votre LLM dans tous les sens. Vous allez essayer de le faire parler, lui faire dire des choses horribles. Et si vous y arrivez, ben vous allez corriger, inclure des correctifs pour éviter que la version finale fasse ça. Ou bien si vous n'y arrivez pas, à un moment donné, vous allez dire « bon, ben, il sait qu'il est prêt et qu'on peut le mettre en production ».
L'intérêt de cette publication, c'est d'industrialiser la recherche de failles sur les IA génératives. Mathématiquement, la sécurité absolue de ces logiciels n'existe pas et il faut donc les tester en permanence et colmater les brèches au fur et à mesure qu'elles sont découvertes.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eléazor, Bruno Sonsini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson, Antoine Beauchon à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, François Saint-Jour. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.